Bleu 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter.
Et notre invité ce matin est un écrivain au succès fulgurant, tout simplement l'auteur qui a vendu le plus d'exemplaires dans l'histoire de son prix Goncourt 2020, juste derrière Marguerite Duras, excusez du peu, plus d'un million de copies diffusées, ça s'appelait L'Anomalie. Et l'écrivain, lui, président du groupe de recherche littéraire Oulipo, s'appelle Hervé Tellier. Et il nous fait le plaisir, excusez-moi, je bafouille. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, c'est l'émotion. Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Bonjour.
Et votre livre, c'est donc l'histoire de la personne qui se cache derrière un nom que vous avez retrouvé inscrit sur le mur de votre maison de campagne, acheté en 2016 à Montjoux dans la Drôme. Ce nom sur le mur, c'est André Schex et c'est un résistant tué à 20 ans sous les balles de l'armée allemande en août 1944. Racontez-nous. Comment vous vous lancez, Hervé Le Tellier, sur les traces de ce nom sur le mur d'André Schex?
C'est un nom que j'ai découvert, quelques années après avoir acheté la maison, c'est-à-dire vers 2018-2019.
Vous l'avez acheté en 2016?
Oui, c'est ça. Et lorsque arrive le confinement et que la plupart des Français sont cloîtrés chez eux, j'ai la chance d'être resté dans cette maison parce que on avait un séminaire de travail. Et à l'occasion de cette résidence un peu forcée, il y avait beaucoup d'allers-retours avec la boulangerie, forcément, l'épicerie. Et il y a le monument aux morts qui est sur le chemin, et j'ai retrouvé le nom d'André Schex sur le monument aux morts. Et d'un seul coup, je me suis dit que peut-être c'était un sujet, et que ça pouvait faire l'occasion d'un livre, et toute la question était pour moi de savoir quel type de livre je pouvais faire avec ça, avec cette information qui était que en 2024 allait arriver le centenaire de sa naissance et que je souhaitais d'une certaine façon célébrer un inconnu, c'est-à-dire m'interroger sur qui il était, retrouver tout ce que je pouvais retrouver, et j'ai eu beaucoup de chance en fait dans cette recherche.
Vous avez eu beaucoup de chance, nous avons beaucoup de chance de lire cette enquête parce que ça n'est pas un roman, Hervé Le Tellier, ce livre-là, et ça prend tout son sens lorsqu'on voit l'objet avec lequel vous êtes venu. Le livre, il est parcouru par des photographies notamment, et donc il y a la photographie d'une petite boîte. Décrivez-nous justement cette boîte, Hervé Le Tellier.
Alors c'est une boîte qui m'a été donnée à l'occasion d'une visite à une association qui faisait une exposition sur la résistance et à qui j'avais parlé du nom d'André Schex, à qui ça ne disait pas grand-chose et qui, lorsque je suis arrivé 2 semaines plus tard pour les rencontrer, avait retrouvé la boîte qui est devant moi, où il y a marqué
André. Une petite
André.
Boîte en carton, alors décrivez-la pour nos auditeurs.
Elle doit faire la taille d'une carte postale et elle est épaisse d'environ 1,5 cm.
Scotché maladroitement.
Oui, et dessus il y a un petit scotch avec marqué André. Et ça avait été donné par Marc-André Schex, qui est le neveu d'André Schex, donc le fils du frère d'André Schex, le frère cadet d'André Schex, qui leur avait donné, voici quelques années, cette petite boîte comme, pour qu'elle soit conservée, parce que le problème toujours dans les familles, c'est la conservation et que les oncles oubliés, les grands-oncles oubliés finissent par finir dans les poubelles. Et donc, pour le conserver, ils ont donné cette boîte à l'association dans laquelle il y avait tout ce qui restait d'André Schex.
Oui, alors qu'est-ce qu'il y a justement dans cette boîte? Parce que la première fois que vous l'avez ouverte, vous avez eu le sentiment de profaner une sépulture. Maintenant,
oui,
c'est vrai que vous avez...
Ça donne cette impression d'être... parce que c'est minuscule, c'est pas la tombe de Toutankhamon, quoi. C'est tout petit.
Oui.
Et en même temps, dedans, il y a tellement de choses qui sont touchantes. Il y avait le portrait de lui et son frère, dans un tout petit cadre en métal. Il y avait sa carte d'identité, il y avait sa carte de travail. Il y avait aussi un fume-cigarette qui lui avait appartenu et qui était apparemment fait dans une douille. Il y avait une petite boîte, qui est une petite boîte de métal. Alors, je vais faire un peu de publicité, mais c'est tellement drôle. C'est une petite boîte Fructine Vichy.
Oui.
Vichy.
Ouais.
Et dedans, il y avait...
Ça s'invente pas.
Non. Et dedans, il y avait toute une série de petites planches contact découpées, mais absolument minuscules, d'une taille de 1 cm sur 2. C'est-à-dire des petites choses comme ceci. Je le montre au micro pour que tout le monde le voit.
Oui.
Et petites photos en noir et blanc.
Des toutes petites photographies en noir et blanc et en sépia. Et qui, une fois agrandi par les miracles de la technique, donnait finalement des photographies très convenables qu'il était possible de présenter dans le livre. Et je ne souhaitais pas que le livre soit un livre uniquement de texte parce que j'avais bénéficié de la chance de disposer de tous ces éléments-là et je pensais que pour le lecteur, c'était de l'information et c'était au-delà de l'information, de l'émotion.
Oui.
C'est-à-dire quelque chose qui se passe au niveau de la compréhension de qui il était et que je ne saurais pas finalement aussi bien décrire qu'une photographie. Quand on le voit, par exemple, debout sur un mûrier, c'est important que cette image soit présente dans la tête du lecteur. Quand on voit son texte écrit au dos des photographies, c'est aussi très important qu'on puisse voir son écriture, qu'on puisse voir la manière dont il s'adresse.
Photo où on l'imagine en Gabin, en Marlon Brando par exemple, c'est absolument assez fascinant.
Et Hervé Le Tellier, au début du livre, vous écrivez ceci: à regarder le monde tel qu'il va, je ne doute pas qu'il faille toujours parler de l'occupation, de la collaboration, du fascisme, du racisme, du rejet de l'autre, jusqu'à sa destruction. C'est ce qui rend votre livre important, voire indispensable. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? À quoi vous faites allusion aujourd'hui?
À votre avis?
Je vous laisse développer.
Le monde est... et plein de conflits qui sont des conflits qui sont liés à des occupations. Le monde est plein de conflits qui sont liés à des régimes qui sont de nature antidémocratique. Le racisme, on s'en est pas débarrassé. L'antisémitisme non plus. Et donc, ces questions restent présentes. Toute la question est de savoir comment est-ce que chacun individuellement de nous essaye de réfléchir à quelle est sa place dans ces conflits dans lesquels nous n'avons pas, a priori, de prise. Et l'exemple d'André Schex m'intéressait parce que il soulevait, en le montrant d'une manière simple, les questions que chacun peut se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été un André Schex à la même époque sous l'occupation?
Vous voulez te poser forcément cette question. Aurais-je été...
Oui, bien sûr, on se la pose tous.
Héros, résistant ou bourreau?
Oui, je pensais au livre de Pierre Bayard.
Ouais, bien sûr.
Ce titre, et qui invente une notion que je trouvais intelligente et essentielle, qui est celle de personnalité potentielle. Comment est-ce que dans une situation précise, celle de l'occupation en l'occurrence pour André Schex, comment est-ce que dans une situation précise, chacun d'entre nous réagit? Et aujourd'hui, ça peut être par rapport à des situations qui ne sont pas celles de l'occupation, mais qui sont celles de prise de position nécessaire sur la question de l'Ukraine, sur la question de la Palestine, et où chacun d'entre nous est vraiment confronté à des questionnements auxquels nous pouvons avoir individuellement des réponses, mais auxquels manque une réponse collective.
Vous avez parlé sur notre antenne il y a quelques jours de bulle identitaire, ce qui vous fait peur aujourd'hui.
Oui, je déteste ça. En fait, ce qui manque aujourd'hui de manière cruelle, c'est la confrontation d'idées. Et on est tous confrontés par le biais des réseaux sociaux à des biais de confirmation, c'est-à-dire que quand on pense quelque chose et qu'on le signifie sur les réseaux, on est aussitôt assailli d'autres informations qui viennent confirmer ce qu'on pense. Or, parfois, il est bon de voir ce que les autres pensent et de les accueillir avec une certaine déférence.
Pas toujours, Hervé Le Tellier, je le dis en souriant, mais vous citez l'immense historien Jean-Pierre Vernon, résistant. On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Il y a toute une réflexion sur...
Sur les idées.
Sur les idées
et
sur le nazisme.
Il y a des idées, on ne discute pas.
Oui.
On ne peut pas discuter avec des idées qui sont effectivement des idées d'oppression, avec des idées qui sont des idées de négation, avec des idées qui sont des idées de destruction. Mais les individus qui les portent, parfois les portent de manière naïve, simple, et eux, parfois, on peut les ramener dans le chemin de la réflexion et de la compassion. Et toute cette question, elle est au centre, à mon avis, de ce qui est la collaboration et de ce qui est la résistance. Et si on arrive à trouver la ligne rouge extrêmement complexe entre ce qui fait un résistant et ce qui fait un collabo, ce qui est une des beautés d'un film comme La Combe Lucien, par exemple, qui montre bien l'ambiguïté de chacun d'entre nous. On voit qu'il peut y avoir des André Schex et que simultanément, en face, il peut y avoir des Barbie, des Papons, qui sont des personnalités complexes.
Et là, Hervé Le Tellier, avec cette petite boîte, avec tous les documents que vous montrez dans le livre, clairement, vous prenez un parti pris, c'est celui de faire une histoire vraie. Vous dites d'ailleurs que vous n'avez pas écrit un roman. On se rappelle qu'il y avait eu un débat à l'automne dernier avec ce livre qui s'inspirait de la photo de la tondue de Chartres et qui avait fait une fiction de cette photo. Vous, avec le nom sur le mur, vous refusez de mettre de la fiction dans l'histoire. C'est inimaginable.
Oui, c'est mon choix, mais on peut en avoir d'autres. Je n'ai rien contre l'idée qu'on puisse utiliser un événement historique et le traiter de manière fictionnée.
Alors pourquoi ce choix ?
C'est le mien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on me donne une boîte qui est effectivement une boîte de témoignages dans laquelle il y a des photographies, dans laquelle il y a des choses très touchantes, quoi. je me sens pas le droit de d'attaquer sur un terrain qui serait de la fiction, puisque j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la vie d'André Chaix, j'ai sa fiancée, j'ai des choses qui sont extrêmement intimes et sur lesquelles je n'ai pas besoin de broder. Il me suffit d'écrire ce qui est écrit, d'imaginer lorsque quelque chose peut entraîner quelque chose, mais je ne vais jamais au-delà de ça. Je prends un exemple dans lequel je vais un peu loin, mais dans ce village, qui est un village de 300 habitants, il y a un jeune homme qui a 50 plus que lui, et qui s'appelle François Soubéran. François Soubéran est aussi un FTP, il va remonter à Paris. Mais qui est François Soubéran? C'est un des frères Jacques. Et je me dis, bon...
Et là, vous imaginez...
Et là, j'imagine
et
forcément...
Et si André
Chaix n'était pas mort...
Avait survécu, oui, au nazisme et à l'occupation allemande...
S'il n'était pas mort face à une
automitrailleuse... Un
il serait peut-être devenu un cinquième...
Frère Jacques,
pourquoi pas. et c'est pas... Là, je vais pas très loin, c'est-à-dire que j'ai affaire à une personnalité qui est François Soubéran, une autre qui est André Chaix. Ils se connaissent, il y en a un qui est fils du boulanger et l'autre qui va régulièrement acheter le pain, c'est des copains quoi, forcément, ils ont beau avoir 50 différences, ils sont proches. En plus, il y en a un qui va revenir faire de la céramique, qui est François Soubéran, quand il aura 70 ans, alors qu'on voit qu'André Chaix a fait de la céramique, donc ils ont beaucoup de points communs. Pourquoi pas imaginer ça? J'imagine aussi que puisque André Chaix a fait un peu de boxe, il a pu faire un peu de boxe avec la seule personne qui, Adieulfi, fait vraiment de la boxe et prof, qui est Henri-Pierre Rocher, qui est l'écrivain qui écrit Jules et Jim, adieu le film.
Alors, l'anomalie va peut-être donner un projet de série avec Canal, et le nom sur le mur, ça pourrait peut-être donner un film, pourquoi pas?
Si ça donnait quelque chose, ça serait un documentaire.
Un documentaire, eh ben on verra ça, on attend ça en tout cas avec impatience. En attendant, il faut lire le livre, il faut lire le nom sur le mur que vous publiez chez Gallimard, Hervé Le Tellier. Je rappelle que vous aviez eu aussi le prix Goncourt en 2020 pour l'anomalie. Un grand merci d'être venu ce
merci
matin sur France Inter.
Et à André, la patrie reconnaissante. Merci Hervé Le Tellier.
Merci.